mission d'entreprise n'est pas de devenir le leader de liquide à vaisselle sur la planète Terre, mais plutôt, je n'ai pas ces termes-là dans ma mission, mais plutôt de contribuer au mouvement de réduire notre empreinte de plastique. Comment je vais le faire? Avec ma vision de changer les habitudes des consommateurs sur des valeurs de transparence, d'inclusion et de responsabilité sociale et environnementale.
Mon nom est Antoine Gagné, je vous souhaite la bienvenue au 105e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre à chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. En 2021, avoir une entreprise et uniquement se concentrer sur une vision de profitabilité semble dépassé. Se soucier des impacts environnementaux, sociétaux et également penser à l'économie locale sont de mise afin d'être une entreprise qu'on pourrait considérer complète. Du moins, c'est mon avis et également celui de Annie Rouleau, l'invitée du 105e épisode du podcast. Madame Rouleau, qui est la fondatrice de Baleco, s'est engagée à réduire l'usage de plastique unique et cette action, comme plusieurs autres d'ailleurs, lui ont valu la certification B Corp. C'est d'ailleurs le sujet de notre discussion aujourd'hui qui va durer un peu plus de 45 minutes. Vous allez voir qu'il y a façon de bâtir une entreprise profitable et qui a également une empreinte écologique forte. Sans plus attendre, ma discussion avec Annie Rouleau. Annie Rouleau, vous êtes la présidente et fondatrice de l'entreprise Baleco et également de l'organisation The Unscented Company. En plus d'être en forte croissance, The Unscented Company se démarque également en ayant la certification B Corp, remise aux entreprises qui sont capables d'atteindre un standard de haut niveau en ce qui concerne leur impact social, environnemental et économique. D'ailleurs, notre discussion aujourd'hui va surtout tourner autour de ce thème. Annie Rouleau, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine, ça me fait plaisir.
Et Annie, avant de lancer Baleco et The Unscented Company, vous avez été dirigeante de l'entreprise que votre père a fondée. Peux-tu nous ramener, Annie, au début de ta carrière professionnelle? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, l'entrepreneuriat, c'est une histoire de famille chez vous, autant au niveau de ton père, mais également de ta mère.
Absolument. J'ai eu la chance et le privilège finalement de grandir dans une famille entrepreneuriale. Mes deux parents étaient des entrepreneurs. Ma mère, elle avait une boutique à Saint-Isidore-de-la-Prairie qui s'appelait la boutique Le Grand Ménage. Et mon père a parti son entreprise. Évidemment, il a pris la table de pique-nique dehors, il l'a rentré en dedans, il a mis un téléphone, puis ça a été ça, le début de la business. Et c'est des événements qui nous marquent en tant que jeunes, parce qu'on discute de cash flow, on discute d'embauche, de partir des entreprises, de remerciement, de croissance, de grandir, construire une usine. Puis tout ça à l'âge de 7 ans jusqu'à 12 ans à peu près que j'ai vu finalement le début de deux entreprises. Mais ce qui m'a marqué, Antoine, le plus dans tout ça, c'est que oui, l'entrepreneuriat, c'est un beau métier, puis c'est un métier qu'on peut faire avec une famille. Donc, je voyais ma mère qui était capable d'avoir une famille puis d'être un entrepreneur. Mais ce que j'ai vu, c'était que l'entrepreneur à Saint-Isidore-de-la-Prairie était extrêmement impliqué dans la communauté. C'était lui, mon père, qui était en charge de la parade du Père Noël. Ma mère était en charge du club de théâtre. Et jusqu'à un moment donné, dans les années, fin des années 75-76, à la fin de la guerre du Vietnam, et où il y avait à l'époque aussi une dictature incroyable au Cambodge, il y a eu les Boat People du Cambodge qui sont arrivés et mon père a fait un porte-à-porte pour acheter une maison, recueillir des fonds, acheter une maison et recevoir à Saint-Isidore-de-la-Prairie une famille de Cambodgiens. Et moi et mon frère avons été extrêmement impliqués puis je me suis dit un jour, je vais faire ça moi aussi. Un jour, je vais être entrepreneur, mais je vais être aussi un éco-entrepreneur ou un socio-entrepreneur, parce que je voyais l'impact d'être un entrepreneur dans la communauté.
C'est intéressant.
Donc, ça part de loin.
Ben oui, puis on va en venir un petit peu tout à l'heure parce que je crois que le nom Baleco, ben il y a pas un hasard derrière ça, il y a une raison spécifique. Puis je pense que tu viens de le mentionner, mais j'aimerais revenir un petit peu parce que c'est assez intéressant. Donc littéralement, quand t'es jeune, à la table à souper, t'as quasiment un cours d'université sur c'est quoi être en affaires, c'est quoi gérer des employés. À quel point que, parce que, bon, on s'entend, des fois, on peut avoir un déclic jeune de se dire on veut être en affaires, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Est-ce que toi, rapidement, quand t'étais jeune, quand t'avais ces discussions-là avec ta mère, avec ton père, c'est assez clair que toi, là, soit t'allais reprendre l'entreprise familiale, certes, mais peut-être partir de ton côté également, de te lancer en affaires. Est-ce que c'était clair très jeune de ton côté?
C'était hyper clair parce que le dimanche puis le samedi, je travaillais dans boutique puis je travaillais le cash. Et j'ai compris vite que s'il y en avait un peu de cash dans le tiroir, ben je pouvais aller m'acheter des bonbons avec. Après, donc, ça n'a pas été bien compliqué. J'ai fait mes classes très jeunes, mais j'aimais voir mes parents travailler. J'aimais ça. Écoute, Antoine, on finissait l'école, on allait dans la boutique ou dans l'entreprise de mon père après l'école. Il nous faisait travailler, il nous faisait nettoyer des machines, il nous faisait nettoyer des salles de bain. On a toujours, toujours été impliqués, puis pas par obligation, là. Parce qu'on avait envie de contribuer, parce que mes parents le mettaient comme une affaire de famille et que tout le monde en bénéficiait. Et puis, même si on était malade, ma mère, elle avait une petite chambre dans sa boutique avec un lit, puis des crayons, puis un petit pupitre, puis on faisait nos devoirs, puis on dormait. Tout tournait autour des entreprises et puis de l'entrepreneuriat. Mais jamais, c'était jamais un effet négatif, c'était jamais un enfrein, c'était jamais quelque chose, oh mon Dieu, il faut que j'aille travailler puis je peux pas m'occuper. On faisait partie de la business.
Intéressant. Puis, parle-nous un petit peu de ça, parce que par la suite, on va revenir, on le dit en intro, on veut parler B Corp aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant de bien comprendre la genèse derrière la vision d'un entrepreneur. Donc, tu le dis très jeune, tu travailles pour l'entreprise à ton père. Je pense que rapidement, tu as gravi les échelons, tu as eu un rôle exécutif, un rôle de présidente à terme. Et je pense que l'entreprise, au début des années 2000, a été acquise. Es-tu capable de nous parler un petit peu de ce moment-là? Parce que par la suite, ça va nous amener à la fondation de Baleco.
Absolument. C'est sûr que vite après l'université, mon père est venu me voir, me dit « Ça te tente-tu de joindre l'entreprise familiale? » Puis la réponse était oui, bien évidemment.
Mais tu avais besoin d'aller à l'université. Je t'entends
sur un entretien. Non. Personne n'entrait dans le business sans notre bac. Bon, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, je le remercie parce qu'effectivement, les études, ça fait partie du cheminement. Et puis, il voulait s'assurer si la compagnie, pour une raison ou l'autre, ne passait pas au travers des crises économiques, ben qu'on avait un baccalauréat puis qu'on pouvait travailler ailleurs. Donc lui, c'était vraiment pour ça. Donc je me suis joint à lui et vite effectivement, mon père m'a pas vraiment laissé le temps de m'adapter. Il m'a mis tout de suite vice-présidente. Mais t'as 24 ans, c'est pas nécessairement. Aujourd'hui en tout cas, moi je referais pas la même chose parce que il y a quelque chose quand même quand t'arrives dans ton l'entreprise, de tous les employés qui te regardent, t'es déjà la fille du patron. Moi, j'avais un frère qui était plus jeune que moi et mon père, lui, savait d'un jeune âge que j'étais plus celle qui était pour prendre la relève. Donc, vite, il m'a mis vice-présidente au grand désarroi de la majorité des employés parce que j'avais pas l'âge, j'avais pas l'expérience, j'avais rien, mais mon père voulait me former. Et je lui ai demandé à un moment donné, j'ai dit, tu sais, papa, j'aimerais ça aller ouvrir l'usine, aller t'ouvrir le marché des États-Unis. Mais Danny, si tu veux y aller, vas-y. Donc, à 25 ans, je suis partie aux États-Unis m'établir à Birmingham, en Alabama. Et j'ai ouvert une usine d'assemblage et acquis une fonderie d'aluminium pour pouvoir vraiment bien supporter l'entreprise du Canada.
C'est Hydracom, hein, le nom de l'entreprise.
C'était Hydrocom pour hydroélectrique parce qu'on fabriquait des équipements pour construire des réseaux électriques. Donc, vraiment à partir de la baie James jusqu'à la résidence privée, des réseaux de transport d'énergie, de distribution d'énergie. Et comme tu l'as dit si bien, en 2000, on a eu quelqu'un qui est arrivé, qui est débarqué à Châteauguay parce que c'était leur entreprise et qu'on est allé au Saint-Hubert. Et il a mis un petit montant sur la napkin, il a plié la napkin en deux, il a donné à mon père et la compagnie était vendue. Oh, c'est wow. Comme ça que ça s'est vendu, la compagnie. Okay. Et c'est un montant qu'on pouvait pas, que mon père ne pouvait pas refuser. Puis même si je voulais racheter mon père, j'avais pas aucune Ils n'ont pas fait de vérification diligente, ils n'ont pas regardé. C'était vraiment une acquisition, bon, pour deux choses, pour qu'on évite de devenir un compétiteur significatif, nous enlever du marché, bref, peu importe la raison.
Il y avait une vision stratégique là, derrière.
Oh, il y avait une vision, exactement. Puis il faut dire aussi qu'il y avait eu un événement en 98, la crise du verglas ici au Québec, où tous les poteaux électriques étaient à terre. Donc, c'est sûr que mon père a eu bien de la job. Fait que tout ça pour dire que je me suis joint à eux, je faisais partie du deal. Annie devait rester pour la période de transition. Donc oui, je suis restée pour la période de transition comme présidente du Canada pour cette nouvelle entreprise qui s'appelait MacLean Power System. Et donc, après ça, au bout de 4 ans, je suis rentrée, Antoine, dans un meeting à Vancouver, BC Hydro, et je suis sortie de là sans contrat. Et je me suis dit, un CEO ne peut pas aller visiter un client et sortir sans contrat, les mains vides. C'est pour moi, ça me démontrait que j'avais plus la flamme ou j'avais plus peut-être le goût pour continuer. Donc, j'ai vraiment pris l'avion, je suis allée voir le conseil d'administration à Chicago, plus des compagnies de milliards, là. C'est pas petites compagnies. Et je leur ai tout simplement dit, « We must find another CEO right now. You need someone that's going to fight for you. »
Puis, juste un petit peu en termes techniques. Donc, toi, à ce moment-là, bon, quand l'entreprise a été achetée, peut-être ton père était rendu un petit peu en dehors des opérations. Donc, j'imagine.
Absolument.
Bon, fait que c'était toi la personne qui était très importante, on va dire comme ça, au niveau de la gestion pendant la transition. Est-ce que tu avais un minimum ou un maximum d'années que tu devais rester? Habituellement, il y a
non.
des clauses.
J'avais demandé, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, vous avez ma parole. Je vais rester jusqu'à ce que la transition soit transparente pour l'employé, pour le client et surtout pour le fournisseur. Parce que mon père était très, très à cheval sur l'économie locale et le contenu québécois. Donc, pour lui, c'est extrêmement important. Et de là, aujourd'hui, que je vais gérer mon entreprise avec ces mêmes genres de convictions. Mais pour lui, le contenu québécois était la seule façon que Hydro-Québec devait acheter. Hydro-Québec devait, pour lui, se soucier du contenu québécois dans toute la technologie sur ses réseaux électriques. On est une des plus grandes compagnies hydroélectriques du monde avec Eskom en Afrique du Sud et Tokyo Hydro. On se doit de développer et de maintenir la recherche et développement ici. Donc, mon père s'est toujours battu.
Bon, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre parce qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. Je pense que tu as une politique à l'intérieur de ton organisation maintenant où est-ce que tes fournisseurs doivent être à un rayon maximum d'environ 500 km de ton siège social. Donc, ça en dit long sur ta vision de voir les choses. Ceci étant dit, tu t'en vas les voir à Chicago. Tu dis, bon, je pense que mon temps à la tête de l'organisation est terminé. Et là, je pense que tu as besoin de respirer un peu, si je me trompe pas, Annie.
Oui.
Parle-nous de ce qui se déroule à ce moment-là. J'ai l'impression que tu es allé faire le tour d'un paquet de pays pour essayer de trouver ta nouvelle idée d'entreprise.
Littéralement. Puis je pense que je suis partie pour aller m'instruire. Je suis partie pour aller découvrir. Et je suis partie aussi pour aller m'asseoir dans tous les parlements pour voir un petit peu les enjeux économiques et les enjeux sociaux de différents pays, qu'on parle de l'Afrique du Sud, du Chili, de l'Argentine, de l'Australie, en Europe. J'ai fait l'Asie aussi. Bon, pas tous les parlements sont ouverts comme ici au Canada où on peut s'asseoir, mais la majorité. J'ai peut-être été à des portes barrées, je pense que c'est Cuba que j'avais pas le droit, puis justement la Chine que j'ai pas eu accès. Mais sinon, je suis allée m'asseoir et j'ai écouté les sessions parlementaires pour réaliser qu'il y a un enjeu commun. Ça, c'est en 2014. C'est en 2004, excusez. Et l'enjeu, c'était l'environnement. C'était l'environnement partout, d'avoir plongé le Great Barrier Reef et de voir un petit peu les coraux qui étaient complètement gris par l'érosion, par l'augmentation de la chaleur. Je veux dire, l'environnement était omniprésent dans tous les pays que j'ai fait. Et donc, sans savoir ce que j'allais faire, je savais que mon entreprise devait faire partie de la solution. Point. Donc, comment et quoi partir, je ne le savais pas à l'époque, mais je savais que j'aurais un impact positif sur l'environnement. Ça, c'était clair. Je suis revenue de là après 18 mois.
Bon, on va en parler un petit peu de ça parce que la fondation de Baleco, c'est assez intéressant. Tu viens d'en parler, on en a parlé également dans des entretiens préalables. Tu voulais trouver un endroit, une entreprise où est-ce que tu peux avoir un impact plus grand que simplement avoir un impact économique. Et si je me trompe pas, Baleco a été tourné autour de réduire l'empreinte de plastique, parce que je crois que dans l'industrie dans laquelle tu opères, c'est un fléau qui dure depuis énormément d'années. Donc toi, tu t'es dit avec Baleco, je veux réduire l'empreinte de plastique. Et d'ailleurs, je l'ai dit un petit peu en intro, le nom Baleco, donc Eco, est pas là par hasard. Peux-tu nous ramener un petit peu à cette idéation d'entreprise-là? Parce que bien entendu, tu es allé faire le tour d'un paquet de pays, tu es allé écouter des gens, te trouver cette voie-là de dire « je vais avoir un impact ». Pour quelle raison tu es allé dans l'industrie dans laquelle Baleco opère aujourd'hui?
Parce que je pouvais avoir un réel impact. Tu l'as très bien dit, tu sais très bien la nature même, l'essence même de mon entreprise. Baleco, premièrement, c'est le nom de mes enfants, le nom de famille, Balit, avec le mot « écologie ». Pourquoi? Parce que on doit penser aux générations futures. On doit faire en fonction de bâtir des entreprises où on va laisser un héritage positif. Baleco, c'est aussi une entreprise manufacturière pour une gamme de produits nettoyants et corporels. Donc, je vends du savon à vaisselle, du liquide, du détergent à lessive, du shampoing, des produits qui sont utilisés quotidiennement. Donc, pour moi, cette industrie-là, c'est une industrie qui a énormément d'impact dans notre vie quotidienne par le contenu, donc d'avoir des produits plus sains, sans fragrance, sans colorant, plus naturels, biodégradables. Les bénéfices, là, il y en a. Je peux vraiment faire de la chimie verte aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a tout le côté de l'emballage. Puis l'emballage, il y a 10 ans, quand j'ai parti ou j'ai eu l'idée de l'entreprise en 2011, l'emballage n'était pas encore un fléau, mais de par ma nature d'entreprise qui fait partie d'une industrie des compagnies de savon, effectivement, tu le dis très bien, je contribue à un des plus grands fléaux environnementaux, l'usage unique des bouteilles de plastique. Donc, la bouteille de plastique à usage unique, là, c'est moi qui le fais. Et je me suis dit, parfait, justement, dans cette industrie-là, on va faire de l'éco-conception et on va réduire nos empreintes de plastique. Donc, ma mission d'entreprise n'est pas de devenir le leader de liquide à vaisselle sur la planète Terre, mais plutôt, je n'ai pas ces termes-là dans ma mission, mais plutôt de contribuer au mouvement de réduire notre empreinte de plastique. Comment je vais le faire? Avec ma vision de changer les habitudes des consommateurs sur des valeurs de transparence, d'inclusion et de responsabilité sociale et environnementale. Donc, en 10 secondes, je vous ai donné ma mission, ma vision et mes valeurs.
Puis, je pense que c'est ce qui t'a amené ultimement à obtenir la certification B Corp. Mais avant d'en parler, j'aimerais te poser une question. Donc, on s'entend, on en a parlé toi et moi ensemble, on doit avoir une entreprise qui, à terme, génère de la profitabilité, parce que sans profitabilité, on ne peut pas avoir de projet. On a besoin d'argent. Exactement. On a besoin d'argent si on veut avoir des projets d'envergure. Mais c'est pas assez. C'est pas uniquement de l'argent maintenant. Il faut avoir un impact environnemental, social, etc. Comment tu les balances? Comment tu balances l'impact environnemental, social et économique quand tu regardes une organisation?
Ben, je pense, comme tu dis si bien, en 2030, une entreprise qui n'est pas transparente, inclusive et responsable va être désuète. Donc, c'est sûr que si moi, j'ai ce genre d'approche-là, ce n'est même pas un effort que de gérer mon entreprise avec constamment en pensant à mon impact social et à mon impact environnemental. Ce n'est pas des silos, ce n'est pas des départements, mais ça fait partie de mon modèle d'affaires, ça fait partie de notre ADN et que j'essaie d'inculquer, puis je pense qu'on réussit bien, de l'inculquer à tout le monde sur l'équipe. C'est pas à moi seulement de penser quand on développe des produits à l'écologie. Parce que j'ai étudié en finance à l'Université d'Ottawa, donc je sais très bien que la nature même d'une entreprise, c'est d'optimiser l'avoir de l'actionnaire. C'est ça qu'on a étudié pendant 4 ans de temps. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dissocier économie et environnement. Donc, on se doit d'être des entrepreneurs à mission aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est des OBNL, là.
Non.
Ça veut dire de bâtir des entreprises fortes, des entreprises résilientes et des entreprises durables. Et des termes qui n'ont jamais eu autant de sens que depuis mars 2020. La résilience et la durabilité vont faire de nous des écosystèmes qui vont être bien plus fortes. Donc là, après 10 ans, moi, la pandémie m'a démontré que notre modèle d'affaires était le seul modèle d'affaires viable. Qu'on se doit de penser à notre société, à notre communauté, de garder nos jobs ici, de les faire travailler dans des moments difficiles.
Fascinant. Baleco a été fondé en 2011, Annie, et quelques années plus tard, je pense que c'est en 2014, vous avez reçu la certification B Corp. Et voici quelques actions que vous avez posées afin de maintenir ou plutôt afin d'obtenir cette certification-là. Donc, et corrige-moi si je me trompe avec les chiffres que je vais dire. Donc, 99% de vos fournisseurs se trouvent au Canada et je pense même qu'une bonne majorité de vos fournisseurs se retrouvent dans un rayon de 500 km de votre siège social, comme je l'ai dit plus tôt. Vous offrez à chacun de vos employés 20 heures de congé annuellement pour faire du bénévolat pour une cause sociale ou environnementale. J'aimerais, Annie, que tu me dises, là, que tu partages avec l'audience aujourd'hui un petit peu plus en détail. C'est quoi B Corp? Comment qu'on peut avoir la certification B Corp? Et c'est quoi les minimums requis pour avoir cette certification?
OK. Bien, premièrement, B Corp s'adresse à toutes les entreprises qui veulent faire de l'argent. Donc, premièrement, c'est très axé sur la compagnie Action et la compagnie corporative qu'on appelle. Ouais. Ce n'est pas pour les OBNL, ce n'est pas pour différentes organisations de services, oui, mais je veux dire, le but, c'est de donner aux entreprises à Action l'opportunité de faire les choses différemment, d'avoir un niveau d'incorporation qu'on appelle hybride. C'est-à-dire que ça commence avec un acte légal où tu ouvres tes statuts d'incorporation pour mettre ton profit au devant, comme toujours, mais ajouter tes engagements sociétaux et tes engagements environnementaux. Et tu refermes les statuts d'incorporation. La raison, Antoine, qu'on fait ça, c'est que si un jour le conseil d'administration doit prendre une décision de maintenir des composantes ici au Québec à plus haut taux, à plus grand prix, ils ne sont pas à risque d'amende ou de faire de la prison parce qu'ils n'ont pas optimisé l'avoir de l'actionnaire. Donc, c'est très important de protéger tes actionnaires et de protéger tes administrateurs, de pouvoir, en bonne et due forme, prendre des décisions de maintenir les jobs au Québec, de maintenir les composantes et la manufacturation au Québec. Donc, déjà en partant, c'est un acte légal. Deuxièmement, ça touche la gouvernance, ça touche les employés, ça touche le produit, la production et la communauté, tout ce qui est fournisseur. Donc, c'est vraiment un questionnaire que tu réponds et des pratiques d'affaires que tu établis avec des procédures qui sont toutes basées sur ta chaîne de valeur. Donc, les compagnies, moi, que j'ai vu, les premières compagnies B Corp, c'est Patagonia, la BDC ici au Québec, Prana. On a là, des belles entreprises qui sont B Corp, qui signifie Beneficial Corporation, justement, qui vont au-delà du profit. Que le profit est important, là. Comme tu dis si bien, on ne peut pas gérer des entreprises qui ne sont pas profitables. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir le profit au détriment de notre communauté et de l'environnement. Nous, on a fait un engagement d'avoir un écosystème local. Donc là, aujourd'hui, pour être très précis au niveau des chiffres, c'est 84,7% de mes fournisseurs sont à l'intérieur de 500 km. On a une nouvelle, ce que j'appelle un KPI, là, un Key Performance Indicator. 14% de ces fournisseurs-là, Antoine, sont des women-owned business, donc détenus par des femmes. Donc, de plus en plus, ça aussi, il va falloir nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'on le mette de l'avant et qu'on le favorise pour s'assurer de bien rééquilibrer le marché. On va donner effectivement 20 heures de bénévolat obligatoire. Donc, c'est pas congé pour n'importe quoi. On a un OBNL qui est local chez nous à Villemar, qui est Partageons l'espoir, et les employés le vendredi après-midi, un employé de l'entrepôt avec un employé du bureau vont faire 4 heures de bénévolat. Donc, ils reviennent au bureau après. Donc, c'est juste une partie de leur journée jusqu'à l'occurrence de 20 heures par année, ce qui est énorme parce que ça leur donne 200 heures de bénévolat de tous les employés. Puis, on concentre à la même place pour avoir un impact mesurable. Et eux, Share the Warmth, ont 10% de nos profits au Black Friday, Cyber Monday, parce qu'on fait le Giving Tuesday. Donc, au Giving Tuesday, ils ont 10% de nos profits. Et tous les mois, ils viennent chercher des surplus de produits qu'on a. Donc, on leur donne pas juste à Noël quand tout le monde donne, mais bien en janvier, février, mars, avril. Tous les mois, ils viennent chercher du stock. Donc, on leur donne une valeur, un montant de produits pour donner dans les banques alimentaires à tous les mois. Donc, c'est des petits gestes qui coûtent pas cher, mais qui ont juste besoin d'être organisés. Parce que je vais vous dire franchement, les employés aujourd'hui veulent travailler pour des entreprises qui ont une mission forte, qui ont des valeurs fortes. Les clients veulent acheter d'entreprises qui rejoignent leurs valeurs aussi. Donc, c'est gagnant partout. Il faut juste prendre le temps de l'organiser parce qu'une fois qu'il est organisé, là, je vous le dis, le monde embarque. Les clients, les fournisseurs, les employés sont fiers et ça se fait sans même s'organiser. Tu sais, ça se fait, il faut l'organiser une fois, mais après ça, c'est correct, ça roule tout seul.
Mais c'est dans la merveilleux ADN.
C'est ça.
Mais je te trouve assez humble, des petits gestes. Je trouve que c'est quand même des gros gestes que vous posez. Peut-être qu'ils paraissent petits maintenant pour vous, mais d'un point de vue externe, je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont être capables de voir l'ampleur de ces gestes-là. Puis, tu as abordé le point brièvement, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Donc, bien entendu, on s'entend, on va avoir un impact positif, environnemental, sociétal. Mais également, il doit avoir des collatéraux positifs à tout ça. Donc, tu l'as dit, des employés maintenant veulent faire partie d'une mission qui est plus grande qu'uniquement une mission de profitabilité ou de croissance d'organisation. Les fournisseurs veulent s'associer à des marques également comme ça. Donc, j'imagine que d'un point de vue business, marketing, ça aide là, cette certification B Corp-là.
Bien, c'est sûr que tu m'aurais posé la question quand je l'ai eu en 2014. La réponse est non. On était trois avec la B Corp. Personne ne connaissait ça.
Ouais.
Mais je pense que les années nous démontrent à quel point aujourd'hui les entreprises ne peuvent plus fonctionner sans regarder leur impact. On peut plus. On est à minuit moins quart. Il faut faire des gestes concrets. Il faut mesurer notre impact. Il faut léguer quelque chose de meilleur. Donc, je me dis, oui, aujourd'hui, les collatéraux sont beaucoup plus positifs que négatifs. Un, que je peux parler parce que c'est vrai, c'est sûr que ça retarde la profitabilité. Ça la retarde un petit peu parce que tes coûts sont plus élevés, parce que ton niveau d'engagement il est tellement élevé que c'est plus long. C'est plus long d'avoir... c'est plus long de convaincre des clients de me donner des contrats aussi parce que c'est sûr, au début, les gens sont pas habitués. Ben voyons donc, tu peux pas mettre dans la même phrase l'environnement puis l'économie. Tu travailles pas... Tu sais, ça sera pas assez profitable, assez rapidement. C'est difficile pour les banquiers de voir qu'aujourd'hui, on peut avoir des entreprises durables et profitables. Aujourd'hui, on est capable. Mais il y a 10 ans, quand j'ai fondé et incorporé Baleco, parce que The Unscented Company, c'est uniquement une marque de commerce. Donc, c'est comme le tide de Procter & Gamble. Procter & Gamble, c'est l'incorporation, exactement.
Mm-hmm. Puis, là, tu l'as dit un petit peu plus tôt, vous êtes manufacturier. Donc, vous avez plus de 6 000 points de vente, je crois, présentement, au moment où on se parle. Vous avez une présence qui est forte en ligne. Comment ça se déroule, toutes vos chaînes d'approvisionnement, tout ça? Est-ce que vos produits sont faits au Québec, sont faits à vos bureaux, sont par la suite, est-ce que c'est vous qui vous occupez du travail? Comment ça se déroule, ouais?
C'est tout du contract filling, c'est-à-dire que j'ai des bons fournisseurs, des partenaires d'affaires qui fabriquent les produits. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que les bouteilles sont moulées ici sur le territoire du Québec. Le savon est coulé ici sur le territoire du Québec. Mon étiquette est faite à Sainte-Julie. Vraiment, il reste encore, là. Il y a des composantes comme les pompes à lotion qui proviennent de la Chine. J'ai certains sacs qui proviennent de la Chine, mais mes boîtes de carton, ça vient toutes de l'île de Montréal. Donc, j'ai une fierté de pouvoir dire qu'ici au Québec, on est capable de tout faire. Malheureusement, pas tout, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on fabrique ça ici. J'ai quelques produits en Ontario et il y a certains de ces produits-là qui vont être rapatriés d'ici la fin de l'année ici au Québec. On va rapatrier ça par souci d'économie locale. Le cri du cœur du premier ministre a été entendu par les consommateurs, certes, mais il a été entendu par les entrepreneurs aussi de dire non, faut rapatrier ça ici. Quand on va faire travailler nos gens dans des périodes difficiles, ben ça va être les Québécois qui vont travailler parce que on se dirige quand même vers une autre période qui va être relativement difficile au niveau économique parce qu'il y a de la pression sur des hausses de prix partout, des hausses de prix de composants, des hausses de prix de transport, ça s'en vient. Donc, il faut rester solidaire, il faut faire nos collaborations localement et ça, je pense qu'on va tous s'en sortir encore comme on va sortir de la pandémie, mais parce qu'on s'est serré les coudes.
Annie, je suis toujours fasciné de voir l'évolution d'un ou d'une entrepreneur à travers le temps. Qu'est-ce que la personne faisait au départ? Qu'est-ce qu'elle faisait à un certain pilier de croissance? Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Es-tu capable de nous amener dans cette évolution-là? Quel était ton rôle spécifiquement en 2011? Et à quel point ton rôle a évolué maintenant en 2021?
Eh là là! C'est ça, c'est drôle parce que dernièrement, on me posait la question si mon leadership avait changé. Puis je pense que, très humblement, je suis capable de répondre non. J'ai toujours été quand même une entrepreneure familiale. Parce que j'ai été élevée dans des entreprises familiales, je resterai près de ce type de leadership-là qui est très ouvert, qui est très empathique, qui est très humain. Je suis maman de deux enfants de 14 et 12 ans. Je veux dire, je peux pas dissocier mes valeurs. Je suis pas une mère le matin, puis je mets mon chapeau d'entrepreneur quand j'arrive au bureau. Je veux dire, je les force à composter, à recycler. Veux, veux pas, t'arrives avec ces convictions-là. Puis je pense que c'est ça que B Corp fait, c'est qu'ils te permettent de gérer sur ta chaîne de valeur à toi et te dire, ben wow, là, on est capable de gérer des belles entreprises puis de rester humain, puis rester authentique, puis rester intègre à nos convictions. Parce qu'Antoine, tous les matins que je me lève, il y a des gens qui aimeraient que je change mes convictions parce que c'est plus économiquement payant, parce que je suis capable de faire plus vite, rapidement. Tu sais, je suis capable de faire des choses plus rapidement. Mais non, il y a des convictions que je ne suis incapable, c'est tolérance zéro ou non négociable. Donc, non, je pense qu'en 2011, j'étais un entrepreneur qui était seul. Et ce qui a changé, c'est que là, il y a une équipe. Et donc, il y a des gens qui sont plus brillants que moi, plus intelligents que moi, plus rapides que moi, qui m'aident à grandir, puis leur focus, ils sont plus jeunes, donc ils ont une autre appréciation du produit, du marché, de la clientèle. J'adore la jeunesse, j'adore voir leurs réflexions. Vous êtes absolument fascinants à regarder, à entendre. Donc, je m'entoure de jeunes, dynamiques, focussés, puis qui travaillent fort, mais qui travaillent autrement. Pas du tout comme ma génération où je pense que dans une conversation, c'était chic de dire qu'on travaillait 80 heures semaine. Puis aujourd'hui, sincèrement, c'est pas chic. Ça dénote qu'il y a autre chose. Il y a ma famille, pour moi, il y a autre chose. Et puis, il faut équilibrer. Puis c'est ça, les conciliations, travail, famille. Ça se fait partout. Se fait même en tant qu'entrepreneur. Puis ça se fait très bien à gérer une business puis d'avoir une famille.
Puis au niveau opérationnel, à quel point ça l'a changé? Donc, c'est sûr et certain que quand on lance une organisation, au départ, on est ce qu'on appelle le « chief of everything ». Donc, on fait à peu près tous les départements. Maintenant, où va davantage ton temps dans une journée comme aujourd'hui, disons?
Je pense que, là, je t'avoue que je suis pas mal débordée. Donc, mon prochain enjeu, moi, va être vraiment de staffer ou d'embaucher pour demain. Non, pas pour les besoins d'aujourd'hui, mais vraiment pour ce qui s'en vient. Parce que mon temps est vraiment consacré au développement des affaires. Donc, vraiment, de signer les comptes majeurs, deux, le développement recherche et développement. Donc, tous les nouveaux produits. Et trois, tout ce qui est le financement d'entreprise. Bon, c'est sûr que je m'occupe pas spécifiquement aujourd'hui du service de clientèle, mais quand le téléphone sonne plus que le deuxième coup, c'est moi qui le prends. Et chaque fois que je le prends, j'apprends quelque chose d'un client, j'apprends quelque chose du marché. J'adore le service à la clientèle. Je trouve que c'est le plus beau métier au monde d'être capable de servir l'autre et qui est content. Supposons que c'est un retailer, une petite boutique à Brooklyn. Ça me jette à terre de savoir qu'ils connaissent mon brand et qu'ils veulent avoir mes produits chez eux. Donc, service à la clientèle. C'est sûr, je fais plus ça. Je fais plus de marketing. Je fais plus trop de comptabilité, d'achat, de gestion d'inventaire. Tu sais, là, il y a maintenant une équipe pour faire tout ça. Mais dernièrement, je vous avoue que les 6 derniers mois ont été dédiés à un nouvel ERP et c'est moi qui s'en est occupée. Puis ça aurait peut-être pas dû être moi. Il y a bien du monde qui m'ont dit, ben, qu'est-ce qu'a fait s'occuper du ERP? Mais pour moi, ça solidifie la base des entreprises d'avoir un bon système de gestion et que tu comprends tes chiffres et puis que tu as confiance à tes chiffres. Puis pour moi, ben, c'était peut-être le moment parfait parce que c'est la pandémie, donc j'avais pas beaucoup de voyages de planifier. Alors, je me suis occupée de mettre un nouveau système de gestion informatique dans l'entreprise, mais pour demain. Donc, on l'utilise aujourd'hui, mais on va pouvoir grandir avec.
Intéressant.
C'est ça que ça a l'air. Une fois que je quitte, que je droppe les enfants à l'école, c'est ça ma journée.
Puis, ça ressemble à quoi le futur de ton organisation si on est capable de se projeter sur un horizon de peut-être 3 à 5 ans?
Ben là, j'ai pas encore rien fait, je trouve. Je veux dire, this is the tip of the iceberg. Je pense pas que mon impact est encore significatif. Je ne pense pas qu'en tant qu'ambassadeur naturel du mouvement B Corp, j'ai encore fait ma job. Je pense qu'on se doit de continuer à grandir et avec le défi de maintenir notre ADN, puis nos valeurs, puis nos convictions dans la croissance. Parce que ça va bien quand tu es une petite entreprise comme moi, mais maintenant, le défi, c'est de maintenir ce que j'ai bâti dans la croissance. Va aussi être énormément dédié à de la nouvelle, des nouveaux produits, nouvel emballage, vraiment de réduire l'empreinte de plastique davantage. Parce qu'une bouteille de plastique, ça reste une bouteille de plastique. Donc là, on est en train de développer tous les produits solides qui vont remplacer tout. Le shampoing solide va remplacer ton shampoing liquide, ton conditionneur solide pour éviter les bouteilles de plastique, puis vraiment améliorer ma mission d'entreprise. Ça ressemble à ce que je vais avoir aussi différentes usines de fabrication, pas à moi, là, mais des contract fillers aux États-Unis, au Canada, pour être encore plus local spécifiquement. Donc, an American buys, an American manufactures. A Canadian buy, a Canadian manufactures. Donc, ça va se dessiner dans les prochaines années, dans les 2-3 prochaines années. Mais là, on va se concentrer, de continuer de se focusser sur notre croissance. On a le vent dans les voiles, on fait partie du top growing, fastest growing company de Globe and Mail. C'est quand même une fierté parce que mes convictions n'ont pas changé, puis parce exact. Que je vais être capable un jour de dire non, guys, c'est possible d'être durable et profitable, parce que ça, on ne peut pas l'oublier.
Effectivement. Je t'aimerais sur des petites questions personnelles, Annie. Donc, j'aime toujours le savoir comment les entrepreneurs s'éduquent, comment qu'on essaye de se garder toujours à l'affût de ce qui se déroule exactement à jour. Est-ce que tu lis un peu? Est-ce que des livres qui ont pu te marquer, qui t'ont aidé peut-être à te garder à jour, qui t'ont aidé à te donner une vision différente du monde des affaires?
Oui, et c'est pas nécessairement ces livres-là. Autant que j'ai essayé des livres très business-oriented. C'est sûr, j'étais plus sur le magazine comme le Harvard Business Review. Pour moi, ce genre de magazine rejoint plus ma personnalité. Moi, où j'ai beaucoup aimé, c'est lire justement sur les entrepreneurs. Que ça soit de, justement, Yvon Chouinard à Steve Jobs, je vais beaucoup m'intéresser à leur façon de faire les choses. T'sais, que ça soit Elon Musk ou... Et ce que j'aime de certains entrepreneurs et ce que je ne veux pas être comme entrepreneur. Donc, pour moi, c'est ça. Bon, au niveau des nouvelles façons de faire, au niveau des nouvelles techniques, au niveau... je suis une personne, Antoine, qui écoute énormément. Donc, j'apprends beaucoup de mon propre réseau. J'apprends des gens que je côtoie. J'écoute et j'applique tout ce que les gens essaient de faire. J'ai pas été beaucoup impliquée ces dernières années parce que je trouve que l'apprentissage se passe aussi beaucoup dans les regroupements de gens d'affaires, mais j'avais 2 jeunes enfants à la maison, puis c'était ma priorité. Donc, les cocktails le soir, les rencontres, j'ai pas été très présente. Là, je vais l'être parce que les enfants ont 12 ans et 14 ans, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Et là, dernièrement, on m'a approchée pour aller faire le cours à l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais regarder. Je suis en train de regarder ça. Je suis en train de regarder un programme à Concordia aussi pour les board of directors. Donc, vraiment, surtout sur la gouvernance éthique. Mais, c'est ça. Mais les 10 dernières années, partir la business puis partir la famille, ça a limité mon développement personnel. Vraiment, j'écoutais beaucoup. J'étais beaucoup dépendante de mon entourage.
Je comprends.
Comme là, je vais sur LinkedIn et puis je stocke moi aussi des gens plus grandes et plus intelligentes que moi, puis je leur demande pour aller prendre un café. Et les gens répondent toujours oui. Comme moi, je réponds oui à tous les jeunes entrepreneurs, féminins ou masculins, qui veulent aller prendre un café, je dis oui, parce que c'est comme ça qu'on bâtit de belles collaborations.
C'est un partage de connaissances, c'est ce qui
yes,
est important.
T'as tout compris.
Podcast, en écoutes-tu un peu?
Pas beaucoup. Non, je suis pas une grande... J'ai pas été... Je trouve que mes enfants m'ont beaucoup plus éduquée. J'ai commencé à m'écouter,
ouais,
mais ça fait pas longtemps. J'étais pas du tout encore très podcast. J'ai commencé les premiers podcasts avec Marie-Josée Gagnon, avec Brave.
OK.
Et là...
Intéressant.
Oui, donc ça doit faire à peu près 4 ans, 5 ans. Et j'ai vu mes enfants évoluer à un bas âge à écouter des podcasts. Donc là, je me suis intéressée à ce qu'ils écoutaient. Et donc, j'ai été beaucoup sur des podcasts avec eux. Et puis aussi, justement, des podcasts au féminin. Je vais justement écouter les podcasts de Brave. Ben, toi, Antoine, tu m'as fait découvrir tes podcasts. que je suis allée voir tous les gens que tu avais interviewés. Je les ai pas tous écoutés, mais définitivement. Donc, je pense que ça va être un endroit aussi où on va pouvoir, justement, comme tu dis, aller chercher ce qu'on recherche comme knowledge. Absolument. J'en ai pas fait beaucoup sur l'hypercroissance comme toi, par exemple.
Puis, si on parle de routine, ça ressemble à quoi la routine avant, pendant et après le travail? Si, bien entendu, il y a une routine parce que des gens qui... C'est toujours fascinant. Quand je pose la question, il y a une personne sur deux qui me donne une routine militaire et l'autre personne dit « Ah, oh, moi, je suis allergique aux routines. » Donc, je serais curieux, ça ressemble à quoi de ton côté?
Ben, c'est une routine de maman, c'est sûr, parce que j'en suis extrêmement fière. J'ai aucunement, mais là, ce matin, supposons, c'est 6 heures dans le parc, j'ai quelqu'un qui m'aide à m'entraîner parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup délaissé. Puis là, je suis en train de reprendre ma forme entre mes mains. Ça ressemble à revenir à la maison, faire les lunchs, laisser les enfants à l'école. Et dès que je les drop à l'école, j'ai des papillons dans le ventre tellement que j'ai hâte d'arriver au bureau. Puis j'ai hâte de commencer ma journée. Puis je me suis couchée la veille j'ai toujours ma petite feuille blanche le soir avant de me coucher. Je me mets 3 points seulement que je dois absolument accomplir, que ce soit d'appeler Jean Coutu pour un pitch, à aller jusqu'à « Oh mon Dieu, il faut que je fasse mon budget ». J'ai 3 choses à faire, c'est tout. Après ça, ben la journée commence et puis je suis extrêmement disponible pour l'équipe et puis je réussis à passer à travers mes 3 objectifs. Puis le soir, je suis à la maison à 5h30 et c'est la deuxième job qui commence.
Exact.
Les devoirs, le souper. Bon, là, il n'y a plus les bains, là. On va arrêter ça, une chance. Alors, ça me donne un petit peu de temps pour me recueillir. Là, je suis dans du kimchi, là, je finis ses livres et puis ça me donne l'opportunité de finir... C'est ça, de lire un petit peu doucement avant de me coucher. C'est ça ma routine.
Puis, je te pose une question, Annie. J'ai cru comprendre que je crois que ton conjoint travaille avec toi aussi. Donc, tu as amené ça, ce que tu as appris de tes parents. Tu peux, j'ai l'impression, parce que il faut le dire, hein, ta mère, à un certain point, avec son entreprise, je pense qu'elle a vendu ou laissé son entreprise et est venue travailler avec ton père.
Pour mon père, oui.
Pour ton père.
Oui, c'est important parce que c'est des nuances qui sont importantes parce que Steven, je pense qu'avec énormément d'humilité, m'a demandé un soir, il me semble que ça me tenterait de me joindre à ton équipe. Et puis moi qui réponds, oui, mais c'est mon idée. J'ai parti cette entreprise-là, alors tu vas travailler pour moi. Pas par souci de vouloir le contrôler, pas du tout.
Non.
Mais par souci que l'employé peut pas être toujours confronté à qui je demande, qui a le dernier mot. Il fallait que ça soit clair pour que si la communication dans un couple est claire et dans l'entreprise est claire, ça va mieux aller. Et moi, ça, je suis d'avis que quand c'est clair entre 2 personnes, on peut déplacer des montagnes. Mais quand il y a des choses, c'est trop à risque. Mon mariage est plus important, ma famille est plus importante que l'entreprise. Mais dans ce cas-là, il faut que ça soit extrêmement clair.
Bien sûr.
Tu sais, ce matin, j'avais un meeting à 7h30, puis les premières choses qu'ils me disent, « Oh mon Dieu, t'as un mari qui est courageux, c'est pas évident à travailler pour sa femme. » Non, mais moi, j'ai vu ma mère travailler pour mon père, et lui a vu sa mère supporter son père parce qu'elle est restée à la maison, elle a élevé ses 3 enfants, mais elle s'est assurée que son père réussisse bien. Donc, on a des modèles qui fonctionnent d'un d'eux. Ma mère qui a travaillé pour mon père et elle qui est restée à la maison, et que supporter la famille. Donc, à un moment donné, aussi, chaque couple fait ce qu'ils sont capables de faire aussi. Mais nous, c'est notre entente. Et puis, moi, ça me plaît. Lui, ça lui plaît. Et puis, ça fonctionne. Parce que là, maintenant, il s'est joint à moi en 2014.
Ça fait quand même 7 ans, là.
Oui,
ça veut dire que
ça fait 7 ans. Et on va fêter notre 16 ans d'anniversaire de mariage. Puis, il y a encore des papillons. Donc, moi, les papillons, là, ils s'en vont pas dans le couple, puis ils s'en vont pas dans le business. Donc,
c'est fascinant ce que tu dis.
Je ne sais pas si c'est fascinant, mais...
Non, mais c'est important.
Oui, c'est important.
C'est important
parce
que les gens sachent que ça peut fonctionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, on entend des histoires qui sont un petit peu plus complexes. Je trouve ça intéressant et important que l'audience comprenne que hey, ça peut être possible. Mais j'ai l'impression que la variable de succès ici, c'est la communication.
Mais je pense, je ne veux pas minimiser, mais c'est le respect de chacune de ses compétences. T'sais, lui, il reconnaît que j'avais l'entrepreneurship dans le sang.
Ouais.
Et moi, je reconnais qu'il est capable de... J'ai confiance en lui qu'il est capable de faire le travail et sans que je regarde. Donc ça, t'sais, d'avoir confiance que tous les achats, la production, les lancements des nouveaux produits, moi, je les ai conçus, ça va être parfaitement fait par Steven. C'est ça. Donc, on a respect de chacun et l'autre de son travail.
Puis si on veut en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ton organisation, c'est où l'endroit le plus facile pour te et pour vous rejoindre?
Hey my God! Ben, premièrement, si on a envie de prendre un café, on a juste à m'écrire parce que je suis hyper disponible. Puis sur mon site web, je leur ai toujours dit le numéro de téléphone, ça doit être la première chose que tu vois. Donc, c'est facile de me rejoindre. Mais sinon, je pense que je suis quand même assez une personne qui est assez accessible. Je vais aller parler. J'aime beaucoup aller parler dans les universités pour justement se garder près de la génération future. C'est à peu près ça. À part ça, je ne sais pas où aller. Les bio, quelques podcasts quand même. Toi, tu as fait quelques recherches. Que tu dirais quoi?
Bien, si, je pense que sur LinkedIn, je pense que
ça... Ah, ben oui, c'est vrai.
Je pense que ça serait le meilleur endroit pour aller contacter sur LinkedIn.
Parce que LinkedIn, je vous avoue, ça, c'est une chose que je ne délaisse pas à personne. Je gère mon propre LinkedIn. Je ne suis pas très active. Je fais un post par semaine. Puis cet été, je n'ai pratiquement pas posté. J'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Et là, j'ai recommencé. Et donc, ça, je gère ça. Mais je pense qu'on en apprend beaucoup sur les personnes, de voir le genre
effectivement.
De...
Ouais. Ah, c'est important LinkedIn et c'est tellement, tellement intéressant si on veut lancer des conversations. C'est un outil qui est assez exceptionnel pour ça.
Non, puis j'ai beaucoup de mes informations, moi, que je prends là de ce qui se passe dans le marché puis ce qui se passe chez les autres, j'avoue.
Effectivement. Ben, Annie Rouleau, merci énormément d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Ça a été une discussion très enrichissante. Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont une entreprise profitable, vont pouvoir peut-être voir une vision différente du monde des affaires. Je pense que de plus en plus, on va en avoir des discours comme ça. Ça va devenir un acquis que les entreprises doivent avoir ça dans leur valeur, dans leur mission d'organisation. Donc, merci d'avoir mis de la lumière autour de B Corp, autour d'avoir une raison plus forte que simplement avoir une raison de profit en tant qu'organisation. Je pense que c'est important. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. B Corp, c'est un thème que j'ai grandement entendu récemment dans mes entretiens et j'invite d'ailleurs notre audience à les lire à ce sujet. J'ai grandement l'impression que dans le futur, les employés, clients et fournisseurs vont vouloir s'associer à des entreprises qui ont acquis cette certification. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous et plus souvent qu'autrement, vous me donnez des super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour le prochain épisode de Hypercroissance.